sur le territoire de la commune de Veubray, dans le Cantal, à même époque, août 1914. C'est une grande effervescence. Il faut moissonner et récolter les fourrages. On cultive du seigle et du sarrasin, céréales qui correspondent le mieux à la région. On engrange des fourrages pour nourrir le cheptel durant le long hiver. Ici, la reine est la vache de Salaire. Corne en lyre, robe de feu, robuste, dure au froid et bonne mère. Les hommes jeunes ont été mobilisés au début du mois. On leur a promis un retour rapide à la maison. Avec les moyens d'aujourd'hui, la guerre sera vite gagnée. Mais il n'en est rien et le travail n'attend pas. Alors, on improvise. Les femmes quittent les nourrissons, les enfants et les fourneaux pour prêter main forte. Marie-Angèle est bienveillante. Son mari, Marcel, est là-bas. C'est le fils de la propriété. Et sa responsabilité est lourde. Elle doit quelque part assumer à sa place. Elle s'y emploie. Et Jules, son beau-père grincheux, s'il ne le montre pas, apprécie sa vaillance au point même de l'éprouver. « La batteuse n'attend pas! Qu'est-ce que tu fous ?» Dans sa moustache, il sourit de satisfaction à voir qu'elle s'active encore davantage. Mais Marie-Angèle se tient le ventre. Tout soudain, s'affaisse et crie « C'est le petit! C'est le petit !» et part en courant vers la maison. « Laurent, laisse le foin et prends la batteuse! Grouille !» Chacun se replace, mais personne n'accompagne Marie-Angèle. Pas le temps. C'est pas le moment, elle aurait pu attendre. Elle, on sait le premier, et son mari si loin, elle, qui retient ses cris et ses larmes, elle porte l'héritier. Ici, chacun est à sa place et elle doit assurer la sienne. Elle attrape quelques draps, quelques serviettes et monte l'escalier qui mène à leur chambre. Une fois, deux fois, elle doit se poser et se jette enfin sur leur lit. Aimerait s'endormir, se mord les lèvres. Ça va aller! La Lucienne, sa belle-mère, pose à ses côtés une carafe d'eau fraîche et un verre. J'y retourne! Elle est dans ses douleurs et pense à son Marcel, qu'elle aimerait dormir. Elle se pince les lèvres, elle se lève et attrape une grande corbeille qui, avec ce drap, fera bien berceau. La porte sur le lit, regarde le plafond, elle arrache sa culotte, elle ne sait pas si c'est bien elle qui pousse, pousse encore et encore, elle se mord les lèvres. « Marcel !» Respire, respire encore. Ça y est. D'une secousse, elle se redresse, attrape leur enfant, arrache sa chemise, le jette sur sa poitrine, respire. S'endort un peu. Ce petit cœur qui bat la rassure. Elle s'endort. Firmin Rénal est né. 3 jours plus tard, Marie-Angèle reprend sa place au milieu des siens. Un peu ménagée, certes, mais bien présente. Dans une quinzaine de jours, la vie ralentira un peu, les récoltes seront terminées et les journées un peu moins longues. Si son corps est pris, sa tête n'a de pensée que pour ces deux hommes. Firmin est un beau poupon qui fait la joie et la fierté de toute la famille. Elle l'allait et est tout à fait généreuse pour lui. Quant à son Marcel, elle lui a écrit une longue lettre pour lui annoncer la nouvelle. Elle sait que des permissions sont parfois accordées pour les naissances. Elle se dit que bientôt elle sera dans ses bras, les bras de son Marcel. Depuis 1908, une ligne de chemin de fer relie Bort-les-Orgues et Paris via Neussargues. Une gare a été construite à Veubray, qui dessert aussi la commune voisine d'Antignac. Parfois, avec son Marcel, ils y prenaient le train pour aller aux foires à Rion-Esmontagne ou descendre faire des commissions à bord. Ils sont même allés une fois au chef-lieu, à Aurillac, pour affaire. Alors, elle n'a peine à imaginer la scène des retrouvailles. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves ?» crie Jules, avec une petite malice au coin des lèvres. Il faudra plusieurs mois pour qu'une lettre du front lui annonce enfin la bonne nouvelle. « Au vu des bons états de service du caporal Marcel Rénal, il lui est accordé une permission de 10 jours, afin qu'il puisse voir son fils Firmin nouveau-né et assurer les démarches légales le concernant. » L'hiver est presque passé. La pression est un peu retombée sur la ferme. Le printemps commence à chatouiller l'essence. Marcel arrive au bon moment. On va pouvoir faire le baptême pendant qu'il est là et organiser une belle fête. Et c'est une joyeuse compagnie. Il y a même un accordéon diatonique et une cabrette qui viennent accueillir le héros une semaine plus tard. La locomotive lance son coup de sifflet pour se joindre au concert. Tout en vapeur et en fumée, elle vient accoster le quai. Marcel a sorti sa tête par la vitre depuis longtemps. Il a aperçu au loin la troupe qui l'attend. Il entend de plus en plus nettement une petite musique. Des larmes coulent sur ses joues. Et ce ne sont pas les escarbilles qui en sont la cause. Marie-Angèle l'aperçoit, mais plus il approche, plus elle se rend compte que son homme n'est plus le même. Son visage est creusé, gris. Il a beaucoup maigri. Autour d'elle, la folle joie fait place à une légère tension. La musique affaiblit et s'arrête quand Marcel descend de son wagon. Tous, à seulement le regarder, comprennent ce qu'il a vécu au front. Et le bonheur de voir sa femme, son fils et toute la tribu l'inonde soudain. Il sourit, il rit, il pleure et le bonheur le maquille. Ils ont retrouvé Marcel, leur Marcel. Les jours suivants, tout tourne autour de lui. Chacun veut lui montrer l'un ci et l'autre ça. Il a faim de revoir son terroir et sa curiosité n'est jamais lasse. Il ne répond pas sur les questions qui concernent le front et personne n'insiste. C'est son épouse qui reçoit ses impossibles confidences. Elle écoute, pleure, le caresse. Ils s'endorment tranquillement, tous les deux, tous les trois. Ses vaches l'ont tout de suite reconnu. L'une d'elles est venue vers lui au galop. Elle l'a gratifié d'un coup de langue râpeuse sur le front. Comme il a ri, comme ils ont ri. Il se souvient bien d'elle. Il avait aidé sa mère à mettre bas et avait personnellement suivi son évolution. Née à l'hiver, elle était tenue dans un parsou, loin de sa mère. Et deux fois par jour, c'est le grand lâcher dans l'étable. Les veaux et les velles se ruent sur leur mère attachée à la crèche. Ils ne se trompent pas. Sinon, gare! Celui qui tète au mauvais endroit aura le droit à un coup de corne dissuasif. Le petit a droit à une tétine qu'il vide goulûment. Ensuite, on l'attache par un courdi près de la tête de la mère. Et le vacher peut alors traire les trois autres tétines. Si on ne pratique pas ainsi, la vache retient son lait. Enfin, la traite terminée, le petit a le droit d'égoutter le reste. Il a bien de la chance, c'est le lait le plus riche. La vache salaire ne connaît que son petit. Si un veau meurt, on doit en faire adopter un autre par sa mère. Sinon, elle ne donnera pas son lait, se tarira ou pourra périr dans une fièvre de lait. On choisit donc un veau né à peu près en même temps. On le couvre alors du pelat, un morceau du pelage du mort, en espérant que l'autre mère n'y verra que du feu. Ça tombe bien, c'est la couleur de leur robe. Le plus souvent, l'adoption fonctionne. Et tant mieux pour le petit qui aura double ration. Au printemps, les bêtes sont lâchées. Elles sortent des étables, aveuglées par tant de lumière, et courent dans tous les sens comme des folles. Il faut être plusieurs pour éviter les accidents. Le calme revient assez vite. On lâche alors les petits, tout aussi aveuglés, mais qu'un instinct magique rapproche de leur mère. À cette époque, après la traite, les veaux sont rassemblés dans un parc loin des mers et n'en seront rapprochés dans les mêmes conditions à la prochaine traite. Le lait récolté sera la base de la fabrication de la tomme fraîche, du Cantal ou du bleu d'Auvergne, notamment. 10 jours, c'est si vite passé. Marcel a repris des couleurs. Il a même pris une petite part dans les travaux de la ferme, mais on s'est bien acharné à lui arracher les outils des mains. Le baptême fut une merveilleuse fête. Le soleil était de la partie. Si le froid court souvent sur les terres du Cantal, c'est un froid sec et vivifiant que quelques canons de rouge ont vite fait d'effacer. Firmin a été baptisé quelques jours après sa naissance, mais de manière privée. Et il a été convenu qu'au retour de son père, il serait associé à une autre célébration, sans bien sûr recevoir de nouveau le sacrement. La cérémonie, présidée par le doyen et conduite par le curé de la paroisse, avait réuni 4 jolis bébés dans la petite église romane de Vebré, plantée au milieu des prés, dans la vallée de la Sumène, qui parfois l'inonde. Elle est située à mi-chemin du bourg et de Couchal, comme pour relier ces deux parties rivales de la commune. Il fait frais dans la petite église. Chacun est à son bonheur, que la cérémonie met en relief. Il est bien loin, le bruit des armes. On a tiré de grandes tables dehors, sur le chemin même qui dessert les maisons du hameau. Et tant pis si les voisins ont l'intention de passer, ils seront contraints à la fête. Le menu est royal. Un cochon en a fait les frais dans les jours qui ont précédé. Et ses générosités font le bonheur des convives. Certains disent, et les croirons-nous, que plus de 80 personnes étaient réunies ce jour-là. Gog, fromage de tête, saucisse de courade, punti, chou farci, grillade, tous les légumes qu'on a conservés et ceux qui commencent à poindre, petites carottes et pois, doucettes. Les bourrioles et le pain bis accompagnent. Les champignons qui ont été mis à sécher ou bien enfermés dans des bocaux à l'automne parfument les préparations. Quelques girolles ont bien voulu sortir des bordures de prés pour l'occasion et viennent ajouter leur fraîcheur au plat. Il est même des morilles qu'un petit malin a apportées. Il connaît le coin et il a toujours semé ceux qui voulaient le suivre. Fromage du pays, cantal de la laiterie de Seigne, bleu de Trisac, Saint-Nectaire de Besse en Chandesse, arrosé de la piquette du pays venant de raisins qui poussent en petits coteaux et en treilles. Un peu râpeuse, certes, mais... elle fait des centenaires à ne plus que savoir en faire. Pour l'occasion, le grand-père s'est défaussé de quelques pièces d'or et a acheté du vin bouché, qui par Gabard, sur la Dordogne, remonte de Bordeaux. Des tartes, des crèmes, des fruits, des rires, des chants, des déclarations solennelles vite éteintes. Monsieur le curé, qui honore la table et les carafons, ne pourra pas se lever pour lire le petit compliment qu'il a préparé. Monsieur le maire, tout en rondeur, ravi par sa prestance et qui frise sa moustache. Et l'autre, et l'un, et Marcel, heureux, qui oublie demain. Et Marie-Angèle sur un petit nuage, qui oublie demain. Et Firmin, le roi de la fête qu'on a un moment installé tout nu au milieu de la table, et qui a fait pipi sur un plateau de fromage. Oh. On dit que la nuit les a tous surpris. On dit aussi qu'ils ont oublié la nuit On dit aussi... Il reste un jour à Marcel pour se préparer au retour. Étrange moment où tout se mélange. À l'heure dite, au jour dit, Marcel est sur le quai avec son épouse, son petit et ses parents. Et il a demandé aux amis, aux voisins de leur laisser ce moment d'intimité. Il ne laisse rien paraître de son angoisse, mais elle est tellement là que tous se retiennent de pleurer ou rient trop fort. Dernières étreintes. Il monte dans le train. Il trouve vite un compartiment et s'approche de la vitre. Il détache la large courroie de cuir qui la maintient fermée. Il se penche vers eux. Des vibrations commencent à habiter le train. Pas de mots, que des regards qui essayent de figer l'instant. Pas de mots, que des regards et tant d'amour. Le train s'ébranle. Il se penche un peu plus, agite son bras, ouvre la bouche et crie gentiment « On sera bientôt ensemble !» Mais le sifflet de la machine coupe la fin de sa phrase. Un signe ? La guerre s'est enterrée dans les tranchées. Des humains souffrent, des humains meurent, des humains perdent une part d'eux-mêmes. Des humains sont meurtris dans leur corps. Pourquoi ? L'été 1915 est là. La ferme de Vebray va connaître une nouvelle effervescence. Firmin trotte comme un lapin, mais ne saura remplacer son père. Marie-Angèle assurera. Marcel vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Bonheur. Il aura su marquer son passage et ses compagnons de misère le chambrent gentiment. Ah, mon coquin, tu l'as fait pour la permission, voyou. 16 octobre 1915. Une offensive allemande est précédée d'un lourd pilonnage d'artillerie. L'aviation a guidé ses tirs. Depuis quelque temps, ils sont de plus en plus précis. La compagnie de Marcel se terre. Une odeur de chlore se répand. Ils sortent tous pour fuir le gaz qui se répand dans les boyaux de la tranchée. Ils tous pleurent. Certains se roulent par terre. Leur survie dépend de l'oxygène qu'ils pourront aspirer. Mais cela les expose davantage. Pour tenter de rejoindre une tranchée épargnée, ils empruntent une coulée traversière qui n'est pas parallèle au front. Un obus explose près de leur petit groupe. Seul l'ouvreur qui a pu sauter dans un trou est épargné. Les autres, dont Marcel, sont couchés et gênent, ensanglantés. Certains ne gêneront plus jamais. Les secours ne peuvent s'approcher, cloués au sol qu'ils sont par le bombardement. Il faut attendre que cela s'arrête, attendre que l'offensive soit déclenchée par ceux d'en face. 5 longues minutes. Marcel a fait un pansement rudimentaire à sa cuisse. Il voit bien que tout a disparu en dessous du genou. Comme on le lui a appris, il se comprime l'aine avec son poing pour limiter le flux de son sang. Quand le vacarme s'arrête, des brancardiers arrivent de l'arrière pour évacuer les blessés. Marcel en voit un se pencher sur lui. Il croit à un possible salut et s'évanouit. La pluie d'obus n'a pas eu les résultats escomptés par l'état-major prussien. L'artillerie française a pris le relais, pilonne no man's land d'obus shrapnel. Les mitrailleuses françaises ont été sorties de leur tanière et arrosent les vagues de fantassins qui déferlent. Les 3 premières vagues sont décimées. Pour la 4e, la pluie s'en mêle. Le terrain devient un cloaque. Les assaillants sont cloués au sol, embourbés, et le clairon sonne leur rappel. Quelques-uns se lèvent. Protégés par le rideau de pluie et de fumée. Ils parviennent à avancer, entraînant avec eux plusieurs de leurs camarades blessés, plongeant au moindre sifflement dans des trous boueux que des artilleurs leur ont gentiment aménagés. Estimant qu'il vaut mieux désormais s'occuper de ces morts et blessés, le lieutenant qui commande la compagnie ordonne le « Halte au feu !» Place aux infirmières et infirmiers. Place au médecin, place à la compassion. Marcel se réveille une première fois sous la tente d'un hôpital de campagne. Le soleil réchauffe la toile blanche qui l'abrite. Sa première sensation avait été l'odeur du sang, de l'éther et des sueurs lourdes mélangées. Il ne voit encore rien qu'un halo blanc et des formes vagues qui se penchent sur lui, émettant des sons en bouillie. Il y sent quand même quelque chose comme une grande sollicitude. Il essaye de bouger son bras droit, mais rien ne passe. Le gauche, lui, répond. Il l'avance doucement vers sa poitrine. Il en sent les lents mouvements. Il pose sa main à l'endroit de son cœur. Il sent qu'il bat. C'est sûr! Il bat. Sa tête tourne. Il voit des oiseaux. Il voit son terroir. Des visages gémés défilent. De nouveau, il s'endort. Il ne se réveillera qu'une douzaine de jours plus tard dans un hôpital au Val-de-Grâce, près de Paris. Les odeurs sont plus civilisées, les bruits plus feutrés. Sa vue est bien meilleure. Elle lui permet de reconnaître la coiffe d'une infirmière couvrant un large sourire. Il est revenu à la vie. Marie-Angèle guette le facteur tous les jours, sauf le dimanche où elle va prier à l'église. Le 10 novembre, elle a un pressentiment. Elle n'arrête pas de regarder vers le petit chemin sinueux qui vient du bourg. Quand le facteur apparaît, à l'œil rapide et inquiet qu'il lui jette, elle comprend que son intuition était fondée. La première chose qu'il lui dit, il est vivant! Sinon, c'est un gars de l'armée qui vient ou bien une lettre d'une autre couleur. Il n'a pas fini son mot qu'elle a déjà déchiré l'enveloppe. Oui, il est vivant. Mais sa jambe droite s'arrête désormais au-dessous du genou. Son bras droit a perdu une part de sa motricité et ses poumons, enfin, ont été touchés par le gaz. Les cicatrisations sont correctes, son état général plutôt bon au vu de sa robuste constitution. Il va bientôt quitter l'hôpital pour un établissement de rééducation où il sera équipé d'une prothèse. Il ne pourra pas recevoir de visite pour l'instant, mais elle sera prévenue dès que ce sera possible. L'adresse du centre de rééducation est jointe où elle pourra envoyer son courrier. Firmin est resté accroché à la robe de sa maman tout au long de cette scène. Les parents de Marcel se sont approchés d'eux. Elle tend la lettre à sa belle-mère. Chacun garde ses larmes. La maman de Marcel lit à haute voix et sans faiblir le courrier. Un lourd silence entoure le petit groupe. Le facteur prend congé après avoir chaudement serré toutes les mains et caressé les cheveux du petit. Les commentaires viendront ce midi au repas. Chacun retourne s'abriter dans son labeur. Marie-Angèle va préparer le repas. Elle se palpe le ventre, il est déjà bien arrondi. Firmin va se cacher dans le pare-soue des veaux. Ils vont se raconter des histoires.